Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La traverse, transition en terre inconnue, épisode 11. Korsberg, une autoroute vers la transition. La voix que vous entendez est celle de Alexia, et c'est moi qui suis aux manettes de cet épisode sur un territoire traversé, écouté et observé, aux côtés de Maxime et Solène. À la traverse, on parle beaucoup de relocalisation, de penser la résilience à l'échelle locale. Toujours est-il que la tendance dominante est et reste la mondialisation, qui se traduit entre autres par la hausse des flux de marchandises. Cette mondialisation, qui crée des territoires sous perfusion pour leurs approvisionnements les plus basiques, a des traductions très concrètes, physiques, dans des infrastructures routières et aéroportuaires notamment. Pour les écologistes, la construction de ces infrastructures relève des grands projets inutiles et imposés. C'est le sujet de cet épisode. Nous nous sommes rendus en Alsace, tout près de Strasbourg, entre les régions naturelles du Korsberg et de l'Ackerland. Composées de villages qui, pour certains, font partie de l'Eurométropole de Strasbourg, ces deux régions seront bientôt traversées par une autoroute, en cours de construction, le Grand Contournement Ouest. Cette autoroute, fermement voulue par l'État et déléguée à Vinci, a suscité de nombreuses oppositions. Que traduit cette construction? Comment impacte-t-elle le territoire et son environnement naturel? Au nom de quoi et comment les habitants se mobilisent-ils? Alors que le chantier est bien entamé, comment l'énergie et les liens créés se réinvestissent-ils dans l'amélioration de la résilience locale? Pour commencer, laissons Guillaume Bourlier de l'association des Bichneuil et Danny Karcher, ancien maire de Kolbsheim, planter le décor.
Alors, moi je suis Guillaume Bourlier, j'habite à Ernolsheim sur Bruche, sur GCO. Alors le GCO, ça correspond à une ambition de l'Eurométropole Strasbourg, c'est devenir un pôle attractif, hein. Et donc ils veulent devenir une des grandes villes du Rhin avec une attractivité décuplée. Et pour ça, ils ont besoin de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures. Ils ont besoin d'attirer le transit rhénan de ce côté-ci du Rhin. Parce que pour l'instant, il y a une autoroute du côté du Bad Württemberg qui est empruntée par le transit, hein, généralement. Mais avec le GCO, même avec le péage du GCO, ce sera moins cher pour les poids lourds les plus polluants de passer par l'Alsace. Voilà, donc c'est pas super pour l'environnement et pour les riverains, mais c'est sûr que ça va peut-être doper l'économie de l'Eurométropole. Donc le GCO n'a jamais été conçu pour désengorger Strasbourg, hein. Même les promoteurs du GCO le disaient. Ça, c'est une idée fausse qui a été répandue par certains grands élus de Strasbourg. Mais il a été conçu pour attirer les poids lourds. Donc, c'est quand même radicalement différent.
Voilà, Danny Karcher, donc maire de Kolbsheim depuis 2001 et pendant à peu près un mois encore. Kolbsheim, on est à une bonne quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de la place Kléber, à l'ouest, donc complètement à l'ouest parfois, de Strasbourg. J'ai l'habitude de dire que Nous sommes sur une colline et j'ai l'habitude de dire que nous avons le Kororsberg dans le dos et la vallée de la Bruche à nos pieds. Donc un village à la fois de terres agricoles mais aussi encore de paysages et de nature très proche de Strasbourg et j'ai envie de dire un poumon, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, un poumon où les Strasbourgeois pouvaient encore venir respirer un peu. On est en train de mettre en place un élément d'un puzzle. Et donc, il faut surtout le maillon essentiel qui va manquer maintenant, ça va être au-dessus de Lauterbourg. On va être obligé de tailler dans une autre forêt, et sur une douzaine de kilomètres. Et on va ouvrir la voie à tous les poids lourds du Benelux, pour qui ce sera un raccourci moins cher d'aller vers le sud ou du sud vers le nord, enfin pour rejoindre les ports du sud et les ports du nord quoi, de l'Europe. Un autre projet dont on parle et dont on entendra, je pense, parler de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, où les Chinois veulent tout simplement, usine du monde, veulent tout simplement diviser par deux les délais d'approvisionnement de l'Europe. Ils veulent grosso modo passer de 1 mois à 15 jours. Et ils vont, au lieu de faire le grand tour par l'océan, ils vont passer par la Méditerranée. Ils ont aujourd'hui déjà, à Trieste, je crois, acheté ou acquis une zone logistique dans le port. Et donc après, je n'ai pas encore compris comment ils vont aller de Trieste à Anvers, à Rotterdam, etc. Et donc si on regarde sur la carte, il y a aussi dessiné d'est en ouest, au nord de l'Europe et en traversant la Russie, des voies de chemin de fer. Donc il y a des voies fluviales, des voies par mer. Et donc il y a des voies ferrées, mais entre Trieste, sur la zone Trieste, Rotterdam, Anvers, on voit juste le point Strasbourg où passe la zone, mais il n'y a aucune voie ferrée qui est dessinée. Alors ma question, c'est juste comment va-t-on emmener les marchandises dans les deux sens entre ces points-là ? Et j'ai peur qu'à côté de nous, il y a une pièce d'un puzzle qu'on est en train de mettre en place.
Cette construction à vocation mondiale aura des effets très concrets, notamment environnementaux et sanitaires, sur des territoires ruraux et périurbains qui concentrent déjà les infrastructures polluantes. On écoute plusieurs des habitants qui se sont renseignés et ont alerté sur ces dangers.
Et j'ai déménagé à Dupicam il y a de cela quelques années, donc en 2017.
Julien Egui de l'association Dupicam Qualité de Vie est nouveau maire de Dupicam.
Je venais d'Ostwald, de l'Eurométropole, d'où le GCO semblait être un lointain projet. Voilà, c'était un peu une abstraction et pratiquement une solution envisageable de vue des citadins, quoi. Okay. On voit le chantier de chez nous, quoi. Voilà. Okay. Donc oui, là, tout d'un coup, ça prend une réalité palpable. En tout cas, c'est plus une vision de l'esprit, quoi, une abstraction. Là, pour le coup, t'as vraiment le sentiment... Enfin, tu vois le tracé, tu le vois de chez toi, t'entends déjà le bruit de l'autoroute et là, tu t'aperçois et tu comprends que... Ça va être une grosse, grosse gêne, quoi. Et l'aéroport à l'ouest, le GCO... à l'est, le GCO à l'ouest, la 35 au sud, la départementale au nord et la zone industrielle au nord aussi. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire pire en termes de nuisances sonores, en nuisances en termes de pollution de l'air et en... Voilà. Donc tout ça, ça a un impact sur la santé qui est évident et qu'on essaye de démontrer par toutes sortes d'actions, quoi.
Le Kororsberg, c'est une des terres les plus riches d'Europe.
Christine Lude, de GCO Nous Merci.
Et de tout temps, on a eu... C'est pour ça que c'est une région qui a toujours été peuplée, parce que les terres ont été très très riches. Donc depuis toujours, ces terres sont peuplées. Et les deux côtés de raccordement, enfin le début et la fin de cette route, terminent dans des forêts. Alors la forêt au nord, la forêt du Grittwald de Vendenheim, c'est une forêt qui a pratiquement 400 ans. C'est tout un, ça fait partie de la forêt, enfin c'est dans le prolongement de la forêt de Haguenau. C'est toute une partie boisée. Et c'est grâce à cette forêt que Vendenheim et toutes les communes aux alentours ne sont pas plus polluées que ça. C'est une très vieille forêt qui, malgré le fait d'avoir été déjà coupée une première fois par une autoroute, reste très très riche en biodiversité, avec beaucoup d'espèces en voie d'extinction, on peut dire d'extinction, comme l'os moderne et le crapaud vert. Et donc là, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et au sud, c'est pareil. Il y a une forêt qui a été rasée. C'est une forêt privée, mais qui avait 100 ans et qui est une forêt humide. Ce qui nous manque énormément de nos jours avec tous les dérèglements, et quand on voit la richesse de la biodiversité dans un milieu humide. Et donc ça, c'était une forêt humide, et celle-là, elle est rasée. Voilà, c'est les deux forêts. Il y a 18 hectares de forêt, en plus de tous les petits massifs boisés qui ont été rasés sans aucune vérification des bêtes qui y habitaient dedans. Et quand on additionne tous les petits massifs tout le long des 24 km, ça fait aussi énorme. En plus des champs, il y a vraiment quand on voit la vie qu'il y a dans tous ces petits arbres et dans tous ces... Enfin, ces petits, non, parce qu'il y avait aussi des gros. Dans tout ce qui a été coupé, et la rapidité avec laquelle c'est coupé pour que surtout personne ne puisse redire qu'il y a quelque chose et broyer sur place, enfin, c'est d'une violence extrême.
Bon, le gesso, il passe à 1,5 km de Pfetisheim.
Luc Hubert, ancien maire de Pfetisheim.
Bon, sur les premières maisons, il y aura un impact au niveau du bruit. Peut-être pas trop de la pollution, mais au niveau du bruit. Bon, ça, c'est maintenant pour l'impact au niveau du village. Surtout si ça devient un couloir à camions, d'où l'intérêt du combat à mener pour que ça ne devienne pas un couloir à camions. Ensuite, il y a bien sûr l'impact sur les terres agricoles. Ici, on est sur des terres très fertiles. Certains disent parmi les plus fertiles d'Europe. Et donc, rien qu'à Pfetisheim, il y a 15 hectares de terres très fertiles qui vont être sacrifiées. Et nous, on pense que ces terres, elles sont vitales pour notre avenir, pour notre autonomie alimentaire un jour, du Korsberg, mais aussi de Strasbourg, et que c'est vraiment une honte de sacrifier ces terres pour un projet qui, en plus, sera d'évidence climaticide. L'idée de dire, c'est que grâce au GCO, les camions de transit, notamment européens, ne passeront plus sur l'autoroute urbaine. Sauf que ça, le vrai problème, c'est que ce transit-là, ça représente quelques pourcents du trafic de camions. Et donc, l'objectif, c'est pas en proposant un contournement qui, quelque part, fait sauter un maillon manquant du barreau nord-sud. L'objectif, c'est de pas attirer du trafic supplémentaire. Donc, les quelques pourcents de camions qui font transiter au niveau européen à Strasbourg, ils pourraient être absorbés par l'autoroute urbaine à partir du moment où on a une volonté de la désengorger réellement. Bon, alors ça, il y a des idées là-dessus, en priorisant notamment les transports collectifs, alors que le fait de faire ce maillon, ce barreau nord-sud européen manquant, ça risque d'attirer des dizaines de milliers de camions de plus en Alsace, et à ce moment-là, c'est toute l'Alsace qui pâtira du GCO, y compris Strasbourg, puisque on a les médecins de Strasbourg respirent. Ils ont bien communiqué là-dessus en disant que le GSO, c'est le type même des fausses bonnes solutions. C'est-à-dire on laisse croire aux gens que ça va un petit peu sortir les nuisances de la ville, les éloigner. Mais en réalité, si ces nuisances ne font qu'augmenter, c'est-à-dire des dizaines de milliers de camions en plus qui passent en Alsace, avec l'effet des vents dominants, la pollution à Strasbourg peut encore être pire que... que si on ne faisait pas le GCO. Et donc, après, on n'hésite pas à mentir aux gens, à communiquer sur les vertus supposées du GCO, alors que la réalité, bah notamment si ça attire des camions en plus en Alsace, on ne voit pas comment ça pourrait ne pas être climaticide. En tout cas, pas cohérent avec les enjeux actuels.
C'était la chanson Les Séquoias de Pomme. Face à ce projet, qui se mobilise, comment et qu'est-ce que ça crée? Quel type de relation se noue entre des zadistes, des maires, des pasteurs et des habitants? Comment les associations, conscientes que le GCO est avant tout un symptôme, le fruit d'un système, s'engagent dans le fait de questionner ce système, en construisant des alternatives?
Moi, ce qui m'a surpris dans un village comme Arnolsheim, c'est le grand silence qui entourait tout ça, comme d'ailleurs d'autres choses. Donc, je pense que ça aurait pu se faire, le chantier aurait pu commencer sans que personne n'en parle à Arnolsheim. On est très bon pour faire l'autruche. Voilà, et puis le fatalisme, de toute façon, on peut rien faire. Alors, moi, c'est ça qui m'avait surpris. Alors, j'avais commencé, pour parler de moi, j'avais commencé par faire une exposition. J'avais réuni des copains photographes, puis on avait pris des photos sur le tracé de ce qui restait de nature, des magnifiques photos. Puis on avait fait passer cette exposition de village en village. Et puis ensuite, deuxième étape, le festival, donc sur un week-end, pour que les gens à Arnolsheim aient conscience quand même de ce qui était en train de se tramer. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, beaucoup de gens nous disaient « Mais non, ça ne se fera jamais. » Mais c'est vrai que le côté festif, convivial, ça s'est fait assez naturellement. Et aussi grâce aux personnes que j'ai rencontrées, qui étaient dans le même esprit. Donc on a, à chaque fois qu'on a fait qu'on a organisé un événement, il y avait de la musique, il y avait quelque chose à manger, à boire. Ça a toujours été convivial. On était parti du principe que la forêt de Erlolsheim-Kalbsheim serait sanctuarisée. Donc qu'elle serait inviolable, que la civilisation industrielle ne pourrait pas la profaner. Et pour la défendre, on en a fait une réserve naturelle, la réserve du Bichnoï. D'ailleurs, les premières fois qu'on intervenait quand des machines arrivaient, c'était d'abord les foreuses, on expliquait ça très sérieusement, c'était assez drôle, que c'était une réserve sanctuarisée et qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire de travaux dedans. Et puis alors les ouvriers, ils nous regardaient, ils nous prenaient au sérieux au début, c'était rigolo. Donc pour inaugurer, voilà, c'était ça, pour inaugurer cette réserve, il fallait une fête. Ouais, c'est parti de là. On a inauguré avec de la musique. Voilà. Bon, après.
10 septembre 2018, il y a un an, les opposants au GCO étaient expulsés manu militari de leur ZAD, leur zone à défendre installée en plein cœur de la forêt de Kalbsheim.
L'endroit était stratégique, au cœur de la forêt de Kalbsheim, pile sur le tracé du GCO. Les zadistes auront tenu un peu plus d'un an. Une vingtaine de personnes en moyenne présentes en permanence sur le site, avec la capacité d'en mobiliser 10 fois plus en cas d'alerte. Mais le 10 septembre 2018, au petit matin, les autorités ont mis les moyens pour évacuer la ZAD.
Vous n'allez pas bousculer le peuple, vous n'allez pas bousculer les villageois de Kalbsheim.
Plus de 500 gendarmes mobiles, hélicoptères à l'appui, ils délogent les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Bousculade, mais officiellement pas de blessés selon la préfecture. La députée européenne écologiste Karima Delli est pourtant restée inanimée durant près d'une heure.
Karima Delli, qui était à côté de moi à ce moment-là, a pris un spray au poivre en pleine figure et elle est tombée immédiatement allongée, incapable de bouger, incapable d'ouvrir les yeux, incapable de parler.
ZAD évacué, les forces de l'ordre bouclent rapidement le secteur.
C'est quelque chose qui est au-dessus de l'écœurement. C'est inadmissible. Ça fait la 4e fois depuis avant-hier que je me fais gazer ici dans ma commune où je suis censé être officier de police judiciaire.
Contexte très tendu, la réunion réclamée au ministère de la Transition écologique est annulée.
François de Rugy nous a donné rendez-vous demain matin, mais clairement à quoi ça va servir d'aller discuter alors que les machines sont là et ont commencé à déboiser.
Tout va très vite après l'évacuation. Les arbres tombent, la trouée dessine le chemin du GCO. La construction du viaduc prendra du temps, il est donc crucial pour Vinci de démarrer ce chantier le plus tôt possible. Avec leur recours en référé, les opposants ont réussi à suspendre les travaux durant 6 mois, mais les jugements sur le fond n'ont toujours pas été examinés.
Les différentes étapes, c'était d'abord des manifs, après des réunions publiques, après c'était des constructions de cabanes tout le long du tracé, sur des terrains privés, hein, toujours, pour symboliser les péages, parce que c'était pas raconté non plus, on disait pas aux gens qu'ils allaient devoir payer pour prendre cette autoroute. Et après, on a continué avec des réunions, en fait, essayer de mobiliser les gens par tous les moyens. On a fait des sites Facebook et tout ça pour réveiller les gens. Et surtout, on n'a pas du tout les mêmes moyens, donc c'était des petits moyens. On n'a pas les mêmes moyens que la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg qui a des sous. Et oui, donc avec la ZAD, c'était surtout pour être sur place et pour pouvoir surveiller, et aussi pour interpeller, pour que les gens qui viennent voir, parce qu'une ZAD en Alsace, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et il y a quand même pas mal de monde qui s'est déplacé pour voir, et c'était pour leur montrer, voyez, ce petit coin de paradis, et bien là, ça va être détruit. Vous voyez la cime des arbres, là, à 18 mètres, et ben, c'est là-haut que passera l'autoroute. Et les gens ne se rendaient pas compte, et il y a beaucoup de gens qui sont venus voir pour voir ce que c'était, ce que ça voulait dire, une ZAD, et ce que c'est ces gens-là qui habitent dans la forêt, pour leur montrer, voilà, ben, ça, ce paradis sera détruit pour faire passer des camions qui continueront à vous polluer et polluer encore plus et qui ne feront rien pour les bouchons que vous avez le matin quand vous voulez aller travailler.
Voilà, donc c'est un sujet qui m'a toujours préoccupée, la question de l'environnement. Ça ne m'est pas tombé dessus un beau matin.
Caroline Ingrand-Offet, pasteur de Kolbsheim.
Par contre, évidemment, la nouveauté, c'est d'avoir ici un grand projet inutile à quelques centaines de mètres. Évidemment, la question ne se pose plus de la même façon que quand ça reste, entre guillemets, un peu théorique. Et en parler dans les cultes ne me paraissait plus suffisant du moment que le chantier était lancé. Alors, j'aurais peut-être pu ou dû réagir plus tôt. Mais en tout cas, du moment que, disons pas que le chantier était lancé, mais que la décision était prise, enfin que le financement était trouvé, en fait, hein, le moment vraiment en 2016 où les choses ont été relancées, là, je me suis dit, je peux plus juste rester dans mon église et dans la théorie. Il faut que je sois avec les gens qui sont prêts à se battre, j'allais dire physiquement, pas se battre, mais enfin à se donner de sa personne aussi. De temps, d'implication, pour cette nature et donc contre ce GCO. Et à partir de là, donc effectivement, on a quelques pasteurs, puisqu'on est maintenant une dizaine de pasteurs qui se sont un peu formés en petits groupes, un peu informels, mais quand même qui sont un peu dans cette ligne. Et de dire, d'une part, on est avec les autres quand il y a manifestation, quand il y a festival, quand il y a toutes sortes d'événements et qu'il y a eu surtout toutes sortes d'événements autour de de la lutte contre ce GCO. Et puis d'autre part, de se dire, on peut aussi essayer de faire des ponts et donc d'avoir des moments, effectivement, où on est dans le cadre d'une célébration, mais adapté d'une part au thème, évidemment. Donc on a fait un certain nombre de célébrations en plein air, ce qui se fait dans nos églises, mais quand même pas si fréquemment que ça. Et puis d'autre part, d'ouvrir aussi de façon à ce qu'on ne puisse pas forcément être, que ça ne puisse être entendu et accueilli pas seulement par des protestants qui sont au culte tous les dimanches, mais de manière beaucoup plus large, voire même par des non-chrétiens. Et ce qui a été le cas en particulier avec la ZAD, évidemment, et pour les célébrations qu'on a pu faire à la ZAD, qui ont été vraiment... Alors pour moi, ça a été très intéressant comme pasteur aussi de chercher les mots, de chercher les textes, de chercher comment rassembler autour d'une thématique commune, tout en gardant l'identité chrétienne. Donc il y a quand même eu, dans tout ce qu'on a fait, il y a toujours eu un moment où la Bible apparaissait. Mais encore une fois, pas pour dire « moi j'ai la vérité, je viens vous convertir », mais dire « voilà ma source à moi, et voilà la raison pour laquelle moi je suis là. Et après, dites-moi vous, pourquoi vous êtes là ?» Et on a eu comme ça des beaux moments d'échange, aussi de célébration, mais d'échange aussi, parce que je l'ai toujours fait dans cet esprit-là. Et puis quand même, il y a parmi les militants beaucoup de chrétiens. Et je dis bien chrétiens parce que, en fait, il y a beaucoup de catholiques aussi qui ont vécu assez mal le fait que leur église ne se soit pas du tout manifestée. Les curés étant vraiment sur la ligne, l'évêque a dit de ne pas se prononcer, donc on ne se prononce pas sur ce sujet précis. Donc ça, c'était une vraie souffrance. On l'a beaucoup entendu en tant que pasteur, mais pourquoi les curés ne sont pas là, mais, donc... Voilà, c'était aussi l'idée que ce qui paraît pour moi évident, mais de ne pas faire de différence entre protestants et catholiques et que vraiment déjà on puisse être au moins déjà protestants-catholiques ensemble, mais aussi beaucoup plus largement que ça. Et c'est vrai que du coup, ça a été un travail pastoral pour moi, passionnant, d'essayer de trouver des mots qui puissent parler à tout le monde. Et alors évidemment, le moment le plus fort et qui a été le plus médiatisé où on a essayé de vivre ça, c'est effectivement l'enterrement des arbres. Parce que là, ça a aussi rejoint une autre dimension de mon rôle de pasteur auquel je suis attachée, c'est aider les gens à vivre les moments difficiles et les moments de crise. Et là, c'est vrai qu'en tant que pasteur de Kolbsheim, j'étais face à un village d'une part, donc à des gens du village, des anciens, face à des zadistes aussi, et face à des militants, de tous horizons, qui étaient vraiment en colère, en deuil, vraiment après l'évacuation, donc en septembre 2018, dans une situation très douloureuse. Et j'ai trouvé aussi très fort de voir à quel point cette souffrance et cette colère, elle était transversale dans toutes ces populations pourtant très différentes. Et donc, voilà, là, en mettant ma casquette de pasteur, je me dis, mais il faut faire quelque chose, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en deuil face à ça ? Et ben, on fait un enterrement.
La pasteur l'a reconnue avec le sourire. Rarement, elle a vu tant de monde dans son église. Une église transformée en temple anti-GCO. Le tout Kolbsheim mobilisé pour rendre hommage aux arbres abattus la semaine dernière.
Un génial musée vivant qui vivifiait notre imaginaire, nos sens et notre esprit. De cela, l'efficacité meurtrière de la machine n'a rien laissé.
Témoignages, chants, dessins, la foule déborde jusque dans la rue. Pour tous ces gens, le combat contre le projet autoroutier continue.
Donc l'idée de l'enterrement, elle est née comme ça. Et effectivement, je pense que ça a marqué les esprits parce que là encore, il y a eu lecture de l'évangile, il y a eu une interprétation d'un texte biblique, d'une histoire de figuier stérile qu'on trouve dans la Bible, de figuier qui devait être coupé ou pas. Et donc on était évidemment, on avait évidemment choisi un texte qui parlait d'arbres et de couper les arbres. Mais il y a eu ce moment-là, mais il y a aussi eu là autour des lectures de témoignages de gens de tous azimuts qui avaient été collectés sur la forêt. Il y a eu de la musique évidemment, et puis et c'est vrai qu'après sur les conséquences que ça a eu pour moi, c'est une préoccupation que j'avais toujours, mais par contre le pour rejoindre l'aspect vraiment territorial, c'est des aspects, voilà, moi j'ai toujours habité en ville, donc j'ai jamais été trop directement concernée par les questions d'aménagement du territoire et tout ça. Et c'est vrai que là actuellement la paroisse est sollicitée, sa paroisse est propriétaire d'un certain nombre de terrains, comme traditionnellement beaucoup de paroisses sont propriétaires de terrains qui leur ont été donnés il y a des centaines d'années par des paroissiens, et on est de plus en plus sollicité par des promoteurs qui veulent construire, et des terrains donc qui étaient des terrains agricoles et qui sont classés constructible, habitation ou zone artisanale. Et ben là, voilà, ça s'était déjà présenté il y a quelques années. Là, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai regardé ça avec un autre œil. Parce que j'ai appris beaucoup de choses et que ça m'a alertée sur beaucoup de choses aussi, cette lutte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de la terre ? On a une discussion très intéressante sur qu'est-ce que ça veut dire valoriser une terre aujourd'hui. Avec un conseil qui dit, voilà, on hérite cette terre de nos ancêtres, on nous en offre une vraie fortune, parce qu'une terre, viabilisée, ça vaut très cher. Donc, mais est-ce que c'est ça le rôle d'une paroisse de participer à goudronner toutes ces terres agricoles avec une terre tellement riche.
Oui, et là j'ai presque envie de dire que c'est nos gens venus de l'extérieur, nos zadistes qui nous ont appris des choses aussi. Hein, donc. Eux, très vite, on se rendait compte parce que le GCO, c'est pas leur problème, quoi. Hein. Leur problème, c'est le GCO, mais c'est la société qui permet à de tels projets de voir le jour. Et là, ça devient intéressant. Et je suis obligé d'admettre que je pense qu'ils ont raison, quoi, hein, puisque ce truc est... Voilà, on a compris que ça ne règle rien, que pourtant que c'est effectivement un grand projet inutile et imposé. Hein, c'en est un. Comment peut-on, ou comment notre système décisionnel et démocratique, j'essaie de lire vite, peut-il permettre une telle chose ? Oui, c'est ce système-là qu'il faut revoir, et donc il faut en fait réfléchir à tout ce qu'il faut faire pour que ces choses-là ne voient pas le jour et pour qu'on n'en ait pas besoin.
Ouais, c'est ça, c'est les rencontres qui... Les rencontres qui te font évoluer, tu croises plein de gens différents, certains vraiment loufoques, hein. Certains à qui tu n'aurais jamais adressé la parole en temps normal. Donc il y a un brassage incroyable entre les élus, les certains penseurs, certains voilà certains certains zadistes, voilà, il y a une diversité incroyable. Donc ça c'était très enrichissant. Et puis après il y avait ce sentiment que au plus haut niveau, de toute façon, il ferait ce GCO quoi qu'il en soit. Donc on a quand, au moment où on a eu tous les avis défavorables, bah, on y croyait quand même. On s'est dit que en 2019 c'était quand même délicat pour des élus ou des personnes non élues, hein, comme le préfet, mais c'était quand même délicat de passer outre l'avis des différentes commissions environnementales. Mais en fait, ils osent tout, hein. Donc ils sont passés en piétinant tout ça. Et donc, il y avait ce sentiment qu'on ne pouvait plus leur faire confiance, que de toute façon, ils sont coupés de la réalité, et que c'est aux citoyens, à la base, de prendre les choses en main.
On est devenu une communauté, je peux pas dire, je sais pas quoi utiliser comme terme. On est devenu un réseau, oui, une communauté, un réseau de gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement et qui se sont retrouvés sur une idée commune, mais en venant de tous les horizons, aussi bien les horizons géographiques que les horizons politiques que les horizons sociaux. Et ça, c'est devenu une force énorme. Et c'est ce qui leur fait peur. Et c'est pour ça qu'on a été sur écoute et qu'on a été suivi et qu'on a été malmené. Et voilà. Parce qu'on leur a fait peur, parce qu'on était. On n'était pas une force existante. Mais que des citoyens qui, par leur volonté, ont réussi à faire des choses qui n'arrivaient pas à contrer correctement.
Un des animateurs du collectif GCO Non Merci, et bon, puisque c'est un collectif qui regroupe des élus, des associations, des citoyens, des agriculteurs, encore quelques-uns. À l'origine, le collectif GCO Non Merci, alors le nom, bon, il est ce qu'il est. Nous, on a toujours voulu aussi communiquer pour dire qu'on n'est pas juste contre une infrastructure, mais qu'on veut donner la priorité à ce que nous, on considère comme étant les solutions cohérentes avec les enjeux actuels, climatiques, énergétiques, de santé publique, de congestion. Et donc ce collectif s'est créé en 2002-2003 avec surtout un triptyque élu, agriculteur, association. Et depuis, le chantier a bien commencé et ça va être maintenant difficile d'arrêter ça. Mais on continue ce combat parce que quand on s'est retrouvé à plusieurs, à 5 heures du matin autour des arbres, que ce soit à Kolbsheim ou même à Pfetisheim, on a aussi un petit groupe local et on s'est dit, même si l'autoroute se fait, il y a encore des combats à mener. On s'est rendu compte qu'on était relativement nombreux, des fois plusieurs dizaines de personnes à 5 heures du matin, à se retrouver autour de certaines valeurs qu'on partage. Et ne serait-ce que pour ces valeurs-là, ça vaut le coup de continuer le combat.
Il y avait une telle énergie au moment de... quand on était militant anti-GCO, que ça aurait été dommage que cet engagement s'arrête là, une fois que le chantier avait démarré. Donc, on a senti la volonté de s'investir aussi de façon positive en étant force de proposition, en prenant des initiatives pour essayer de changer les choses au niveau local. Donc, quand on dit changer les choses, ça veut dire changer certaines habitudes. Donc la première année, on a pas mal insisté sur les déchets. On a lancé un défi famille zéro déchet et on a appris plein de choses parce que du coup on a eu des formations sur le compost, les produits ménagers. Ça c'était un premier essai. Et puis, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est faire découvrir ou redécouvrir aux gens d'ici leur patrimoine naturel. Là, il nous reste quand même une forêt. Il nous reste une forêt entre Herrnolsheim et Dachstein. Il y a la bruche, il y a des prairies. Donc, les gens ne peuvent pas défendre un patrimoine naturel s'ils ne le connaissent pas. Donc, on a commencé à organiser des sorties de visites, de découvertes. Et puis, on s'est engagé aussi dans l'organisation d'un marché aux plantes. Donc, toujours dans l'idée de s'organiser entre citoyens. Donc, ce sera, on ne vendra des plants que rustiques et reproductibles pour éviter justement la dépendance aux grands semenciers. Et on était parti pour organiser un marché de producteurs à Herrnolsheim, mais on n'a pas eu un soutien franc de la mairie, c'est un euphémisme, et donc on attend les municipales pour essayer de vendre mieux cette idée.
Le mouvement, il y a plusieurs personnes qui font maintenant des listes électorales, des gens qui faisaient partie du collectif GCO Non Merci, qui présentent des listes dans différents villages. Il y a plus d'une dizaine de villages avec des... en regardant tout le monde, il y a peut-être une vingtaine de villages qui ont des listes de personnes qui faisaient partie du collectif. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, on pourra peut-être arriver à travailler un petit peu autrement.
Disons qu'en arrivant à la DQV, on regardait tout ce qui pouvait être fait dans le cadre du GCO et autour du GCO. C'était pas que limiter le GCO. Le GCO, c'est un fait, c'est une route catastrophique qui aura un impact. Mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de choses à côté. Un impact sur sur la pollution de l'air, la pollution sonore, la pollution visuelle, les animaux qui auront désormais une barrière physique, sur l'eau de pluie, les éventuelles inondations, tout ça, il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de conséquences négatives. Alors on s'interrogeait autour de tout ce qui pouvait être fait et on essayait de voir les politiques, ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. Et de ce point de vue-là, on n'était pas franchement soutenu. Donc on s'est dit, à un moment donné, si on veut faire bouger les lignes, faire avancer les choses dans le bon sens, dans ce qu'on pense être le bon sens, il n'y a pas d'autre choix que d'être élu. Parce que c'est bien beau de râler, mais à un moment donné, si on constate qu'on est en situation d'échec, alors il faut chercher une solution. Et la solution, c'est devenir soi-même décideur, et avec la possibilité d'agir concrètement. Et pour ça, c'est de là qu'est venue l'idée de faire une liste.
Donc moi, je compte beaucoup aussi sur la collaboration avec les gens. D'ailleurs, chez les Bichnoy, il y a des gens d'Herrnolsheim, mais il y a des gens de Dachstein, il y a des gens de Dütlenheim, il y a des gens de Molsheim. Je crois qu'il y a une génération GCO qui arrive. Donc dans plusieurs villages autour, on a des gens motivés qui veulent s'investir maintenant dans la vie de leur village pour éviter de subir des décisions comme celle du GCO.
Depuis l'enregistrement de cet épisode, plusieurs listes composées d'anciens militants anti-GCO ont remporté les élections, dont celles de Düpigheim et d'Herrnolsheim, ouvrant la voie localement à des changements systémiques. Cet épisode est terminé. Un grand merci à Rue 89 Strasbourg pour le prêt de matériel et à Maxime pour la composition au piano. Dans le prochain épisode, nous partirons à Los Angeles, star des villes en transition, pour explorer les manières dont les transformations de la ville sont mises en récit. À bientôt !